RFI, la radio du monde. 1958, le général de Gaulle entreprend une grande tournée dans tous les pays d'Afrique et à Madagascar. Le but, convaincre les habitants des colonies de voter en faveur de la création de la communauté. Un voyage historique qui va ouvrir les portes de l'indépendance à la Guinée de Sékou Touré. Archives d'Afrique avec Alain Foka, aujourd'hui à 11h10, temps universel, sur RFI.
Les enjeux d'Internet et des nouvelles technologies de l'information pour l'Afrique, deuxième partie du débat africain. Avec nous, Annie Chenoloke, Samba Kone, Amadou Top, Pascal Renaud. Alors, on s'interroge beaucoup aujourd'hui sur les usages, bien sûr, d'Internet en Afrique, ce qui revient à répondre à la question quelle est l'utilité réelle aujourd'hui de ce nouveau média pour l'Afrique et comment le continent peut-il en tirer le meilleur parti, évidemment en tenant compte de ses spécificités. Alors, il n'y a peut-être pas une réponse, mais plusieurs points de vue à envisager, Annie Chenoloke.
Il y a 2 ans, je vous ai demandé un petit peu à quoi ça sert. J'avais commencé des enquêtes, par exemple, dans le milieu des commerçants, qui n'étaient pas très informés, qui demandaient à s'informer. Mais ce qui m'avait frappé à cette époque-là, il y a 2 ans, c'est que les gens n'avaient pas du tout de prévention contre la technologie. Ils disaient, bon, si ça peut nous être utile à quelque chose, de toute façon, on va s'en servir. On va voir comment on peut s'en servir, mais on va s'en servir. Il n'y avait aucun rejet. Et maintenant, je veux dire, 2 ans après, même dans des milieux populaires, ce que l'on peut appeler l'économie populaire, on commence à utiliser le courrier électronique. Parce qu'en Afrique, quand on parle d'Internet, c'est très, très largement, essentiellement, le courrier électronique, puisque c'est quand même le moyen le moins cher pour communiquer à l'international, et de très loin. Donc là, les gens l'ont compris assez vite.
Pascal Renaud.
Moi, je crois que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Annie Chenoloke, mais je crois que fondamentalement, l'apport d'Internet, c'est l'accès au savoir. C'est l'accès aux publications scientifiques et techniques. C'est donc la possibilité d'organiser un transfert de technologie. C'est la possibilité d'avoir des formations d'ingénieurs, de techniciens, et en général des formations de cadres de très bonne qualité, d'accès aux livres, toutes sortes de choses qui sont très difficiles. C'est dans la plupart des pays d'Afrique francophone et anglophone, il y a très très peu de bibliothèques. Ces bibliothèques sont difficiles d'accès, elles ont presque pas de livres, etc. Donc c'est quelque chose qui est d'une richesse extraordinaire. C'est pour ça que j'avais écrit un article dont on parle l'Internet, une chance pour l'Afrique. Enfin, ça a été critiqué parce que c'est aussi une inquiétude, puisque ça crée une fracture croissante entre le Nord et le Sud. Et de ce point de vue-là, Internet est un danger. Hein. Mais du point de vue de l'accès au savoir, de l'accès à l'information, aussi de l'accès à l'information politique et sociale, donc un enjeu pour la démocratie. On voit bien que les pays non démocratiques le craignent, hein, en Afrique comme ailleurs, et que les pays démocratiques le développent. C'est quand même le cas du Mali, le Sénégal, ce sont les pays qui ont la meilleure cote de démocratie.
Amadou Top, il peut y avoir un usage propre à l'Afrique, au moins à ce stade du démarrage d'Internet?
Oui, à mon avis, il y aura nécessairement un usage assez propre. Et de toute manière, Internet aujourd'hui permet à chaque culture, à chaque civilisation d'exprimer sa spécificité. Mais au-delà de cela, je pense que c'est une chance, c'est vrai, pour l'Afrique, parce que, comme l'a dit Pascal tout à l'heure, nous allons avoir accès à une base assez importante de données sur beaucoup de sujets, ce que nous ne pouvions pas faire. Mais nous allons aussi, à mon avis, pouvoir apporter davantage de façon beaucoup plus aisée. Jusqu'ici, au plan du commerce international, nous intervenons pour 3% du commerce international. Mais si on regarde bien les causes, il y a aussi que nous ne savons pas ce qu'il faut faire pour être visible dans le marché, comment présenter nos produits, comment accéder aux produits des autres et à la production des autres. Donc, Internet sera très probablement un moyen relativement important pour nous de résoudre en partie cette question de la visibilité. Et puis, il y a la gouvernance. Comme vous le savez, il y a énormément de difficultés pour les citoyens africains à accéder à l'information concernant l'administration, les lois, les règlements et pourquoi pas les simples arrêts concernant la vie de tous les jours. Et je pense que Internet va à un coût assez réduit permettre aux gens d'y accéder.
Alors, Samba Kone, un accès pour le savoir, un accès pour le commerce, pourquoi pas, un accès pour une meilleure gouvernance, quoi d'autre ?
Mais je reviendrai sur les titres de l'article de Pascal, là. Une chance pour l'Afrique, oui et non. Oui et non, parce que pour moi, Internet, ce n'est qu'un outil. Et tout dépend de l'utilisation qu'on fait de l'outil. Tout simplement. Et c'est vrai que ça peut être un outil qui peut aider à résoudre certains problèmes de l'Afrique, pas tous les problèmes de l'Afrique. Aider à résoudre certains problèmes, tout comme ça peut être un outil qui va plonger l'Afrique encore, qui va créer davantage l'écart entre l'Afrique et le reste du monde, si les Africains eux-mêmes ne savent pas utiliser correctement cet outil-là. Voilà ce que je peux dire à ce niveau-là.
Moi, j'irais tout à fait dans ce sens. En particulier, on peut voir comment l'expérience concrète de l'Afrique, de l'université virtuelle qui avait été montée d'abord par la Banque mondiale, où très globalement, pour simplifier, les enseignants africains ont en gros refusé d'utiliser cet outil et ces savoirs qui venaient du Nord. On ne leur demandait pas suffisamment de participer. Ce qu'ils veulent, ce dont ils ont envie, c'est de pouvoir mettre eux-mêmes leur propre savoir, leur culture sur les autoroutes de l'information. Quelqu'un m'avait dit en 96, oui, c'est très bien, mais nous, il faut qu'on mette nos propres voitures sur ces autoroutes de l'information. Je crois que les gens le ressentent comme un très grand danger d'une fracture encore entre Nord et Sud et d'être noyés sous les produits occidentaux.
Alors, il y a un enjeu manifeste, c'est le commerce sur Internet. Est-ce que l'Afrique n'est pas très, très mal positionnée pour l'instant en la matière? Et est-ce qu'on ne raconte pas un peu des histoires en disant à n'importe quel commerçant ou artisan dans un coin un petit peu écarté de la capitale qu'il pourra vendre ses objets sur Internet? Est-ce qu'il n'y a pas là un peu de l'escroquerie intellectuelle alors qu'il y a une nécessité d'être visible sur Internet?
Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'Internet est un outil qui intéresse énormément les commerçants qui travaillent sur l'international, sur l'import-export. Ça les aide dans leurs affaires de tous les jours. Ça les aide à avoir des relations avec leurs fournisseurs, etc.
Mais ça aide peut-être, des commerçants qui ont déjà une surface.
Des commerçants qui ont déjà une surface, absolument, oui. Absolument, et ça aide énormément aussi toute la diaspora. Moi, je crois qu'Internet, c'est un outil absolument extraordinaire par rapport à la diaspora africaine. Et j'ai bien peur que ça, d'ailleurs, ça accentue l'extraversion du continent. C'est un continent qui est déjà très, très tourné vers l'extérieur. Il n'y a pas au Sénégal un village qui n'est pas des émigrés à l'étranger, en particulier dans les pays du Nord. Et c'est un outil qui permet de garder des relations, de les accentuer aussi. Par contre, le gros obstacle, et à Bamako, les gens l'ont bien dit, en particulier dans l'atelier commerce électronique, c'est bien de vouloir faire du commerce électronique. On peut toujours acheminer les produits jusqu'à Dakar ou jusqu'à, je pense, au Gabon, à Libreville. Mais s'il n'y a pas de route après pour transporter les produits plus loin, je veux dire, le commerce électronique, il va s'arrêter. D'abord, ça va être de l'importation de produits très, très généralement, puis il va s'arrêter à la capitale, aux endroits où il y a des réseaux. Ils avaient bien souligné le fait que le développement d'Internet va de pair avec le développement des autres infrastructures plus physiques dans un territoire.
Oui, moi je suis assez partagé quand on parle du commerce électronique en Afrique. Parce que pour moi, les nouvelles technologies doivent d'abord servir, il faudrait pouvoir les adapter aux conditions dans chaque pays. Moi j'imagine qu'on puisse utiliser ces nouvelles technologies pour par exemple créer des réseaux locaux à l'intérieur des mêmes pays d'abord et dans la sous-région pour partager d'abord nos similitudes et connaître nos différences. Faire en sorte qu'on puisse utiliser ces outils-là pour améliorer nos rapports à l'intérieur d'un pays et dans la sous-région, déjà. Parce que parler de commerce électronique, moi je veux bien, mais ça demande toute une organisation qu'il faut mettre en place. Vous prenez un artisan de Korogo qui fait de la teinture sur tissu, vous lui faites un site web, c'est bien, il aura une grande visibilité à l'extérieur, mais est-ce qu'il pourra assumer ce commerce électronique qu'on veut initier tout de suite? Non, par contre, cet artisan de Korogo pourrait, grâce à Internet, dialoguer avec son collègue du Sud qui travaille par exemple sur la noix de coco, par exemple. On peut créer des réseaux nationaux déjà, grâce à cette technologie dont la mise en route ne coûte pas excessivement cher par rapport aux autres révolutions que nous avons connues. C'est ça, pour moi, l'apport que nous pouvons tirer d'Internet. Et non, tout de suite, je ne dis pas qu'il faut refuser le commerce électronique, loin s'en faut. Dans les capitales, dans les sociétés, dans les structures organisées qui ont une activité vers l'export, ils peuvent se servir de cet outil pour avoir une plus grande visibilité, ok. Mais on peut le faire aussi de façon interne.
Amadou Top, vous allez évidemment réagir à tout ce qui vient d'être dit, mais prenons un exemple très simple. Si on veut acheter aujourd'hui un produit proposé par une entreprise africaine sur Internet, est-ce que ça ne veut pas dire la mise à disposition de moyens de paiement qui pour l'instant font encore défaut?
Absolument. Je pense que il va falloir résoudre pas seulement les moyens de paiement, il va falloir régler aussi le problème de l'acheminement du produit, il y a un certain nombre de décisions à prendre pour ce qui concerne aussi la sécurisation des transactions en Afrique. Bon. Mais je ne crois pas que ce soit là des questions spécifiques à l'Afrique. Hein. Dans le domaine du commerce électronique, un peu partout, y compris dans les pays développés, on sent bien qu'il y aura forcément, dans un premier temps, une évolution à deux vitesses. Entre ceux qui sont placés dans certaines conditions, dans les grandes villes, ceux qui sont déjà suffisamment orientés vers l'export, et puis tous les autres. Bon, mais en Afrique, je pense que, quand on disait tout à l'heure que les dirigeants devraient pouvoir réfléchir à toutes ces questions, c'est aussi à ces questions-là qu'il faut apporter des solutions. Il faut mettre en place un dispositif pour les paiements électroniques. Il faut que ceux qui sont déjà dans l'économie traditionnelle orientée vers l'exportation de produits et tout ça, se réorganisent pour pouvoir offrir aussi un service qui passerait par des transactions via Internet. Et il faudrait aussi organiser les producteurs, n'est-ce pas, en association, en coopérative, en regroupement, qui puissent, n'est-ce pas, accéder à des formes d'organisation qui leur permettent de mettre leurs produits sur le réseau.
Est-ce que là aussi, l'État n'a pas un rôle à jouer pour assurer une certaine visibilité, un certain appui, par exemple aux producteurs, pour assurer leur présence sur Internet?
Absolument. Je pense que... mais ça ne demande pas énormément de choses. Si nous prenons le cas du Sénégal, nous avons le Trade Point, qui aujourd'hui joue un peu le rôle de facilitateur entre un certain nombre de producteurs, des commerçants, qui peuvent venir chercher des produits, bah c'est aussi une des modalités du commerce électronique, ils peuvent même être des analphabètes, mais ils utilisent des médiateurs qui font le travail à leur place, et ils arrivent aujourd'hui à mettre quotidiennement quelques 3000 à 4000 références ou besoins en ligne. Je pense que c'est un début. Nous voyons le cas de la Tunisie et du Maroc qui sont en train de mettre en place des portails de commerce électronique, qui même ont pris, la Tunisie a pris un certain nombre de décisions très importantes en matière de transactions, disons, financières. Ils ont pris des résolutions extrêmement importantes. Je pense que dans les 2-3 années à venir, on pourrait parfaitement assister à une prise de conscience qui permette d'organiser, j'allais dire, cette nouvelle forme de commerce.
Est-ce que l'État doit mettre en place un certain nombre de conditions favorables? Est-ce qu'il doit être aussi acteur sur Internet? Est-ce qu'il y a d'ailleurs une réponse toute faite là en la matière, sans bâconner?
Je ne pense pas qu'il y ait une réponse toute faite, mais moi, à mon avis, l'État doit être sur les deux tableaux. L'État doit être sur les deux tableaux en ce sens que l'État doit pouvoir prendre des textes pour faciliter certains aspects du développement de l'Internet. Par exemple, quand on parle de la défiscalisation du matériel, c'est l'État. Quand j'imagine aisément qu'on peut aujourd'hui décider au niveau de l'État que toutes les écoles qui vont être construites, quand on fait une prise électrique, il faut prévoir une prise téléphonique. C'est basique, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce serait plus aisé que de vouloir tirer une ligne téléphonique quelques années plus tard. C'est à l'État de pouvoir aujourd'hui se vendre, entre guillemets, aux investisseurs étrangers par le canal de portail sur l'État. Bon, vous voulez des informations sur un pays, vous allez sur Internet, vous n'allez plus dans les ambassades, dans les services économiques d'une ambassade pour avoir ces informations-là. Ça coûte beaucoup moins cher d'avoir un serveur qui donne ces informations à travers le monde que d'avoir X services économiques dans les ambassades, par exemple. Donc l'État a, sur les deux tableaux, un rôle à jouer, un rôle important.
On assiste à une intervention, je ne dirais pas massive, mais relativement importante, des bailleurs de fonds internationaux pour aider, bon certes c'est un appui à l'équipement, mais aussi à la création de sites. Est-ce que, en l'occurrence, de sites ou de stratégies de présence sur Internet, est-ce que, en l'occurrence, la ligne de conduite de ces bailleurs de fonds est très claire et très définie, ou est-ce que on tâtonne? Pascal Renaud.
Mon sentiment, c'est que effectivement, on tâtonne. Mais il y a quelque chose de nouveau, c'est que depuis 2 ans, les bailleurs de fonds internationaux, la communauté internationale, se préoccupent réellement de la fracture numérique. Elles se préoccupent du fait qu'il y a maintenant une progression, une croissance économique liée au développement des nouvelles technologies, de la nouvelle économie, qui est considérable et que le Sud non seulement n'en bénéficie pas, mais ils pourraient en souffrir. Moi j'espère que l'Europe, et je pense que l'Europe a un rôle particulier à jouer, et on pourrait attendre que la présidence française soit de ce point de vue-là efficace, que l'Europe propose une action de solidarité qui est nécessaire et qui est légitime. Hein. Il est légitime que lorsque on fait des profits particuliers, qu'il y a une création de valeur nouvelle, on fasse aussi une redistribution. Au sein d'un pays, c'est automatique. Je veux dire, on redistribue les richesses accumulées dans la région parisienne en Lozère. Hein. Donc on peut se poser la question d'une redistribution nécessaire. Le PNUD parlait de taxer le courrier électronique. Hein. D'autres ont parlé de taxer le commerce électronique. Il y a réellement un problème. Ça ne gênerait pas l'économie mondiale qu'il y ait un dispositif de taxation et que cette taxation bénéficie aux pays qui sont en retard. Et ça permettrait à la communauté internationale de se ressouder et ça éviterait sûrement des déboires d'avenir qui ne manqueraient de se produire si on a deux mondes qui s'écartent à ce point-là.
Amadou Top, mais en quelques mots seulement, quel pourrait être là, à ce stade précis, le rôle des bailleurs de fonds? Sur quoi devrait-il mettre l'accent?
Écoutez, la plus grande difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que le peu de gens que nous avons pu former à ces nouvelles technologies, on puisse les garder. Je pense que les bailleurs pourraient intervenir au moins pour que nous sécurisions ce stock, disons, de techniciens supérieurs et des gens formés dans ces domaines-là, parce que ce qu'on constate, c'est qu'ils sont l'objet de convoitises extrêmes de la part des pays développés qui ont des déficits assez importants en matière de techniciens dans ce domaine-là, et je pense qu'on devrait trouver une formule. L'autre cas de figure dans lequel les bailleurs pourraient intervenir, c'est aider les Africains à mettre en place une dorsale assez importante pour leur permettre déjà entre eux d'avoir un niveau de communication important, mais surtout, je pense qu'ils devraient ne pas faire, disons, de la coopération comme avant, imposer des schémas et puis aller en ordre dispersé.
Pour en revenir aux usages, et on finira peut-être là-dessus, il y a un certain nombre d'expériences propres à l'Afrique que vous citez d'ailleurs dans votre livre, comme le rôle que peuvent jouer des médiateurs comme facilitateurs à l'accès et à l'utilisation d'Internet au Sénégal, mais ils doivent exister ailleurs également.
Oui, ça c'est très important, et Amadou l'a évoqué tout à l'heure, c'est une idée qui nous a été suggérée par les commerçants eux-mêmes. Les commerçants africains qui travaillent à l'international, il est bien évident qu'ils ne maîtrisent pas les langues extérieures, ils ne maîtrisent pas les langues asiatiques, et pourtant la plupart des produits de consommation courante de la population africaine vient de l'Asie. Comment font-ils? Ils ont des médiateurs. Ils ont des intermédiaires qui parlent les langues qui leur servent pour traiter leurs contrats. Ça, c'est cette idée de médiation, c'est quelque chose qu'ils vivent tous les jours. Et d'autre part, quelque chose de très simple aussi, il y a des médiateurs, des écrivains publics toujours en Afrique. Autour d'une poste, vous trouverez des gens qui sont capables d'écrire une lettre pour vous, qui sont des scribes. On pourrait créer des médiateurs, un petit peu des scribes modernes. D'ailleurs, j'avais envie de poser la question à M. Koné, de lui demander si dans ce centre de formation dont il s'occupe, cette idée-là de création de médiateurs, c'est-à-dire de gens qui ne seraient peut-être pas d'un niveau très très élevé, a été creusée. Est-ce que vous avez fait...
Alors, en quelques mots, Samba Koné.
Nous n'avons pas creusé particulièrement ce sujet, mais ce que nous essayons d'envisager au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est de faire en sorte que l'Internet ne creuse pas davantage la fracture entre la capitale et la province. En ce sens que...
Les jeunes et les plus âgés aussi.
Entre les jeunes et les plus âgés, bien sûr. Nous avons donc envisagé, au niveau du ministère de la Communication, l'implantation des centres ruraux connectés. Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faudrait qu'on ait des points d'accès à Internet à l'intérieur du pays. Et ça aussi, c'est l'État qui doit prendre une décision à ce niveau-là. Mais ces centres ruraux permettront déjà, j'y reviens là-dessus, à une meilleure circulation de l'information au niveau même national déjà, entre les parents qui sont restés au village et leurs enfants dans les capitales, et une meilleure circulation de l'information du courrier électronique entre ces parents-là et leurs enfants à l'étranger, par exemple. Et c'est une bataille que nous essayons de mener au niveau du ministère de la Communication. Ce n'est pas évident, parce qu'actuellement, en Côte d'Ivoire, on n'a que trois villes qui ont un point d'accès à l'intérieur, il en faudrait davantage, il en faudrait une quinzaine, voire une vingtaine.
Merci, ce sera le mot de la fin. Le débat africain se poursuit évidemment la semaine prochaine. Merci à nos invités, merci également à la Fondation du Devenir à Genève pour sa contribution à l'organisation de ce débat. La réalisation de cette émission était assurée par Silvio Segala et Fouzi Slimani. À la semaine prochaine. Lowa lale, Baba Bey, and the same.